cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er février 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Quelques petites questions. La substance et l'acte sont deux principes au-delà desquels on ne peut plus remonter. Vous avez dit que le principe ne peut pas être relatif à un autre principe. C'est sûr. La substance et l'acte ne sont-ils pas relatifs à l'être ? Pas relatifs, ils sont l'être. La substance est être premier. L'acte est être premier. Premier selon la forme, premier selon la fin. Mais ils sont être. C'est vite dit. Mais c'est bien. Parce qu'il faut chasser ces fantasmes imaginatifs. La substance, essence et quidité décrivent-elles la même réalité ? Dans un Thomas, dans De Ente Essentia, Saint-Thomas dit des choses comme ça. C'est vrai, au point de vue descriptif, il y a une parenté entre substance, essence et quidité. Tous les trois sont premiers. Voyez. Alors, substance, première dans l'être. Elle est être premier. C'est pour ça que c'est curieux, une substance créée, voyez. Alors, on n'a pas vu très nettement la différence entre le point de vue de la créature et l'être non créé. On confond, on tombe dans Feuerbach. Substance, être premier. Essence, c'est l'aspect, j'allais dire, l'aspect potentiel de l'être poussé dans son extrême potentialité, mais extrême potentialité du côté de l'être, c'est-à-dire ce qui est capable d'exister, donc tout proche de l'être, de l'acte. Équidité, intelligibilité, le premier dans l'intelligibilité. Donc, décrivent-ils telle la même réalité ? D'une certaine manière, ils décrivent ce qu'il y a de premier. Mais ils sont différents si on regarde le point de vue de l'acte. Primauté dans l'être, primauté dans l'intelligibilité et primauté, voyez, c'est curieux, dans la potentialité. Ce qui est capable d'exister. Sont-elles connues dans l'intelligence par ce qu'on appelle l'appréhension ? Ah, oui, très bien, bonne question. La substance est connue par le jugement. Vous n'avez pas d'appréhension de la substance. L'essence, la quidité est connue par l'appréhension. Et l'essence, entre les deux, parce que je peux prendre l'essence du côté logique, alors elle est appréhendée. Je peux prendre l'essence du côté métaphysique, premier potentiel, le jugement. Je vais vite, hein. Mais c'est très bien. pour bien connaître la différence, il faut regarder cet état réflexif, comment on l'appréhende. Pouvons-nous dire que le faux est dans l'intelligence? Ce que saisit en premier lieu l'intelligence, n'est-ce pas l'être? C'est-à-dire le vrai. Oui. Je n'appréhende jamais le faux. Il n'y a pas d'appréhension du faux. Parce que le faux n'a pas d'intelligibilité. Cherchez mais en vain l'intelligibilité du faux. Le faux existe sans intelligibilité. Ah, c'est curieux, hein, l'erreur, le faux. Le mal n'a pas d'intelligibilité. C'est une négation. Il existe. Le mal existe. Mais le mal n'est pas intelligible. N'a pas de forme propre. C'est pour ça qu'il est si embêtant. Il se faufile partout, le mal. Le démon est un dialecticien du mal. Il nous fait croire que le mal existe. Et il nous fait croire que le mal a une quidité. Et qu'il existe, oui. Le mal existe. Le faux existe en mon intelligence. C'est moi qui me trompe. Et le réel n'est jamais faux. Le réel est toujours vrai. Mais il peut être vrai et manquer à sa plénitude. Vous voyez, un enfant est vrai. Quand on reste enfant à 20 ans, c'est embêtant. Alors, on manque de maturité quand on dit ça. On manque de maturité. Chercher l'intelligibilité, il n'y en a pas. Alors, c'est facile de dire ça. C'est pour ça que c'est facile de dire le mal. C'est facile de dire le défaut, c'est très difficile de dire le bien. Le bien implique une intégrité. Il faut que tout soit là. Il faut qu'il n'y ait aucun manque. Dès qu'il y a un manque, je peux le grossir énormément. C'est très curieux, hein, quand on assiste à des chapitres où on dit comme ça, il manque de maturité, on a envie de dire, dites un peu sur quel point il manque de maturité. Manquer de maturité, ça signifie rien. Parce que l'homme est complexe. Alors vous pouvez manger de maturité parce que vous n'avez pas envie de manger. Vous manquez de maturité. Votre petit déjeuner du matin que vous prenez à toute vitesse en prenant un bout de pain, vous manquez de maturité. Parce qu'il faut manger un peu plus. Vous n'êtes plus un gosse qui a besoin seulement un peu de lait, un peu plus. Alors vous manquez de maturité par rapport à votre estomac. Vous manquez de maturité par rapport à la joie. Vous êtes toujours triste. Or, si on atteint une certaine perfection, on est joyeux. Alors, il faut toujours avoir un petit coin où on est parfait. Pour montrer que celui qui dit « vous manquez de maturité », préciser. Alors on a envie de dire, oui, j'ai toujours envie de dire, ah oui, il mange pas beaucoup. que c'est la maturité de l'estomac qui est la plus visible. Hein, c'est plus visible. Il y a des, certains êtres qui ont besoin de manger peu et des gens qui ont besoin de manger beaucoup. Mais je ne dirais pas que ceux qui mangent beaucoup, oh, ceux-là, ils sont parfaits. Non, ben oui, ils mangent beaucoup, ils ont besoin de manger beaucoup. Ils consomment beaucoup. Alors il faut mettre deux gros morceaux de bois. Hein. Tandis d'autres, il faut des petites miettes. Vous voyez, c'est très important de comprendre que le mal, c'est toujours une privation. Et donc le mal ne se comprend qu'en fonction du bien. Le manque de maturité ne se comprend qu'en fonction du bien. Vous manquez en quoi? Vous manquez de prudence. Manquer de prudence, c'est manquer de maturité. Manquer d'intelligence, c'est manquer de maturité. Manquer d'amour, c'est manquer de maturité. Oui. Alors, et on affirme manquer de maturité comme un absolu. Moi, ça m'épate, ça, que quelqu'un dit manquer de maturité. Comment? Et, bon, c'est ces mots-là qu'on ne devrait jamais dire, parce qu'ils sont gonflés. C'est beau, vous voyez? C'est la grenouille qui peut devenir aussi grosse que le bœuf. Tu vois, ils sont gonflés. Parce que je peux dire de tout le monde, tous nous manquons de maturité. Nous ne sommes pas encore dans la vision béatifique. Donc, je manque de maturité parce que je ne suis pas dans la vision béatifique. Ce sera dans la vision béatifique que je serai pleinement ce que je veux d'être. Ce n'est que quand j'atteins ma fin que je suis dans un état de perfection. Entelekeia. Donc le faux, l'erreur, le mal existent dans le jugement. Il existe. Dans la réalité aussi, le mal existe. Mais il n'a pas de cuidité. Cherchez la cuidité du mal. Il n'a pas de forme. C'est une privation. Mais la privation n'est compréhensible qu'en raison du sujet particulier qui est privé de telle qualité. Dernière question. Pouvez-vous revenir sur la distinction entre intentionnalité intellectuelle et intentionnalité affective? Ça, c'est très important. Ça fait partie directement de notre recherche. Hein. L'intentionnalité intellectuelle, nous la saisissons dans la vérité. Quand vous posez un jugement, vous atteignez la réalité. Mais vous atteignez la réalité à travers votre jugement. À travers le verbe, le concept que vous avez formé dans votre intelligence. Et ce concept que vous avez formé dans votre intelligence n'est pas la réalité. L'intentionnalité, c'est une réalité toujours dépendante de la réalité existante. L'intentionnalité est toujours vers la réalité. C'est pour affirmer que que cela existe, que je forme une proposition. Et ma parole s'appuie sur mon concept, exprime mon concept, ce que je comprends, ce que je connais. Et ma parole n'atteint la réalité que par l'intentionnalité de mon concept. Donc toutes mes paroles, elles sont abstraites de l'existence. Elles n'atteignent pas l'existence. Il n'y a que la parole de Dieu qui atteint l'existence. La parole de Dieu est créatrice. Mais ma parole n'est pas créatrice. L'artiste réalise par son art des réalités qui sont artificielles, qui n'ont pas l'existence de la réalité naturelle. C'est la parole de Dieu qui, elle, est réalisatrice de l'être. Il n'y a que la parole de Dieu qui est réalisatrice de l'être. Ma parole se termine toujours à l'intelligibilité atteinte. Mon appréhension se termine toujours à l'intentionnalité. Mon jugement d'existence touche le réel. Et seul le jugement d'existence touche le réel, dépend du réel, mais ne le crée pas. Et c'est pour ça que ma parole n'est pas efficace. Elle est efficace dans l'ordre de l'intentionnalité, mais elle n'est pas efficace dans l'ordre de l'existant en acte. Donc l'intentionnalité, c'est un mot que le philosophe est obligé d'inventer. C'est Aristote qui a inventé ça. Platon ne l'a pas inventé. Cherchez l'intentionnalité dans Platon, vous ne la trouverez pas. Elle est, parce que ce que Platon dit se termine à ce que Platon a connu, ce que Platon a aimé, mais n'atteint pas la réalité. Quand Platon parle des choses en soi, de la forme en soi, mais cette forme en soi n'existe que dans l'intentionnalité de la pensée de Platon. Vous n'avez jamais vu l'homme en soi. La seule réalité qui correspondrait à l'homme en soi, ce serait Jésus, en qui l'humanité se trouve parfaitement réalisée, d'une façon telle que tous les autres hommes n'ajoutent rien à la perfection de son humanité. Mais c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. Et mon intelligence a toujours envie, par l'appréhension, de me faire croire que mon intelligence crée le réel. Mais l'intelligence ne crée pas le réel. Mon intelligence saisit dans le réel ce qui est intelligible. Et elle revient au réel pour montrer que ce qu'elle dit est vrai. Et lorsqu'elle dit que c'est vrai, elle reconnaît que le réel est antérieur à ce que je dis. dans l'appréhension, je termine toujours à l'intentionnalité, ce qui est intelligible. Mes jugements touchent le réel par le jugement d'existence. Et seul le jugement d'existence touche le réel. Et le jugement de foi touche le réel divin. Tandis que mon jugement métaphysique ne touche le réel dans un jugement de sagesse créé, toujours contingent. Je ne touche pas l'éternel dans mon jugement d'existence métaphysique. Tandis dans mon jugement de foi, je touche l'éternel. Je le touche en comprenant que je suis totalement dépendant de la réalité. Je ne crée pas non plus le réel. L'affectivité, l'intentionnalité affective, c'est à partir de l'amour. Quand j'aime, l'expérience de l'amour, quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez. Vous voudriez qu'il soit parfait, ce quelqu'un. Et vous apercevez qu'il n'est pas parfait. Dans votre amour pour cette personne, vous voudriez qu'il soit parfait. Et votre affectivité intentionnelle est blessée de voir que celui que vous aimez n'est pas parfait. L'amour, c'est une intentionnalité qui se porte vers l'autre. Tandis que l'intentionnalité intellectuelle, ça fait venir l'autre en moi. C'est peut-être ça qui me fait le mieux comprendre, ces deux intentionnalités. L'intentionnalité, c'est ce que je suis capable de créer. C'est l'intentionnalité qui mesure en quelque sorte, qui manifeste la différence entre le vécu intellectuel, le vécu affectif et la réalité. Dans l'intentionnalité, je reste toujours dans mon vécu. Mon vécu ne sort pas de l'intentionnalité, sauf dans le jugement d'existence. Et je n'ai pas de jugement d'existence affectif. Ah. Je voudrais bien, mais je n'ai pas de jugement d'existence affectif. C'est le jugement d'existence qui montre la supériorité et la primauté de l'intelligence sur l'affectivité. Parce que vous n'avez pas un amour particulier qui est analogue au jugement d'existence. Vous n'avez pas un premier amour comme vous avez un premier jugement d'existence. Non. L'amour est toujours second. Il reste dans l'affectivité, dans l'intentionnalité. Et quand vous embrassez quelqu'un, vous croyez que votre affectivité, à ce moment-là, rencontre le réel. Parce que vous l'embrassez, et vous n'embrassez pas votre amour, vous embrassez une personne autre que vous. Alors, votre amour, il touche le réel par l'intelligence, jugement d'existence. Mon ami existe. Ce jugement d'existence n'est peut-être pas formulé, mais il est en acte. Mon ami existe. Il est là. L'amour ne me fait pas découvrir un nouveau contact propre, direct, par le jugement d'existence. Mon amour se réalise et touche le réel par le jugement d'existence. C'est la tentation, ça, de croire que le jugement d'existence est réel. On voit ça chez les gens trop affectifs. Et c'est là on peut dire qu'ils sont trop affectifs. Autrement, on ne peut pas dire qu'ils sont trop affectifs. Quand vous dites que quelqu'un est trop affectif, vous dites « Pourquoi ? Il aime trop ?» Aimer trop, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas aimer selon la réalité. Vous êtes pris par l'imagination. Et celui ou celle que vous aimez devient idole. Le jugement d'existence n'est plus là. Tant que le jugement d'existence est là, vous n'aimez pas trop. Vous aimez une réalité. Vous voyez, c'est peut-être par là que vous pouvez le mieux saisir l'intentionnalité intentionnelle qui est fondamentale. Et que cette intentionnalité intellectuelle est dépassée par le jugement d'existence. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le jugement d'existence. C'est pour arriver à ce dépassement qui nous permet de toucher le réel et de comprendre ce que c'est que la vérité, conformité à ce qui est. Si le jugement d'existence n'existe plus, il n'y a plus de vérité. Il y a tout simplement une conformité à ce qu'on pense. Donc il y a une sincérité. Et dans l'affectivité, quand l'affectivité étouffe le jugement d'existence, ça peut arriver. Quelqu'un qui aime follement. Ah, je vous aime follement. Oui, oui. Donc, j'embrasse la folle. Quand le jugement d'existence disparaît, qu'il n'y a que l'affectivité, vous ne rejoignez pas le réel. Vous vous êtes enfermé dans votre affectivité. C'est très curieux, ça. Et c'est très important. L'affectivité, l'intentionnalité affective me porte vers l'autre. Mais me porte vers l'autre. Attention, l'autre que j'aime me fait aller le plus loin possible dans mon amour. Mais pour rejoindre l'autre qui existe, jugement d'existence. Et c'est là où vous voyez comment l'intelligence est toujours présente dans un amour réel, dans un amour qui atteint la réalité. Et c'est par là que mon amour peut se purifier. Il se purifie par l'ami qu'on aime. J'aime l'autre. Tandis que dans l'affectivité pure, j'aime mon amour. Et aimer mon amour n'est pas aimer l'autre. Et l'autre, je l'atteins au jugement d'existence. C'est très, très important, ça. Parce que ça m'exige moi-même d'être très attentif, à comprendre que je ne peux pas dire j'aime tellement que l'intelligence n'a plus rien à voir. Non, je ne peux jamais quitter le jugement d'existence. Donc la philosophie est toujours là. Elle est toujours présente. Si on veut vivre humainement, si on veut vivre selon son imagination, c'est autre chose. Et c'est plus humain. Et se laisser emporter par son affectivité. Alors, nous rejoignons maintenant ce que nous avions dit précédemment. Chercher l'être en acte dans mon affectivité. Ma volonté, l'action volontaire, si je suis cartésien, et tous les Français le sont un peu, cartésien, kantien, hégélien, trois âges. C'est très curieux. Et les trois âges qui se tiennent, quelque chose de commun, c'est que l'intentionnalité est première. Il n'y a plus de jugement d'existence. Alors, si l'intentionnalité est première, voyez, ce que je pense est le réel, ce que j'aime est le réel. Il est réel grâce à mon amour, il est réel grâce à ma pensée. Il est réel dans ma pensée, il est réel dans mon affectivité. Confusion entre l'intentionnalité et la réalité. C'est pour ça que la distinction entre l'intentionnalité et le réel est si important. Et je rejoindrai par là la distinction d'Aristote entre l'entelecheia et l'energeia. L'entelecheia, c'est ce que je possède. Il est vécu dans mon intentionnalité. La vérité formelle, l'amour, qui fait que, au-dedans de moi, j'ai l'être en acte. Mais l'être en acte, en tant que pensée, en tant qu'aimé, pas l'être en acte. C'est l'être en acte en tant que pensée, en tant qu'aimer. La phénoménologie, c'est toujours sur le vécu. Donc, ça reste dans l'entelecheia. Dans la vérité formelle, je demeure dans l'entelecheia, dans le vrai intelligé. Mais voyez, si je demeure dans le vrai, dans l'entelecheia, je sais que l'entelecheia, c'est l'immanence de l'être en acte grâce à l'esprit. Grâce à l'esprit, l'être en acte peut être vécu dans une immanence, soit intellectuelle, soit affective. Et il y a le danger de considérer que l'avoir, c'est l'être. Ce que je possède, entelecheia, la vérité, ce que je possède, est relatif à l'entelegaya est relative à l'énergaya, à l'être en acte. Le vrai ontologique, le vrai de la réalité, le bien de la réalité, l'ami. Ce que je possède dans l'intentionnalité intellectuelle, dans l'intentionnalité affective, ce que je possède, puisque je le possède, il est plus proche de moi que la réalité existante qui me transcende toujours. Et donc, il y a cette grande tentation de considérer ce que je possède comme plus être que la réalité. Pour moi, la vérité formelle est plus être que le vrai ontologique. Pour moi, l'amour est plus affectif que l'ami bon, la bonté de l'ami. Je crois que ça, nous pouvons le comprendre. Hein. Et la tentation de considérer que ce qui est immanent à moi, donc ce qui est plus proche de moi, c'est plus être pour moi que la réalité de l'autre qui me dépasse, qui me transcende, qui est autre. Je crois que c'est là où l'on voit comment la pauvreté, vous voyez, au point de vue philosophique, la pauvreté est intellectuelle. Le refus, l'acceptation de ne pas posséder. C'est ça la pauvreté. C'est l'acceptation de ne pas posséder. La pauvreté n'empêche absolument pas l'usage. On peut être très pauvre d'esprit et circuler dans une très belle auto. Et on peut être très riche d'esprit, très possesseur, dans une pauvre vieille carriole. Oui, ben, c'est... l'immanence, ce qui est autour de moi, peut être une terrible tentation de considérer que ce que je possède est plus être que ce que je ne possède pas. Et c'est vrai, il faut être pauvre, ça. Et c'est intéressant de voir où la pauvreté est fondamentale pour rester dans la vérité. La pauvreté est fondamentale pour que l'amour ne se corrompe pas et reste vrai. Et la béatitude des pauvres fait que cette pauvreté fondamentale au point de vue philosophique est érigée comme ce qu'il y a de premier dans la vie chrétienne. C'est assez extraordinaire, ça. Et c'est intéressant de voir que si qui est fondamental au point philosophique devient premier au point du chrétien. L'alpha et l'oméga se tiennent. Et c'est vrai, c'est que grâce au Christ, on atteint la sagesse tout de suite. chrétien doit être un sage, d'une sagesse divine. Pas d'une sagesse philosophique, mais d'une sagesse divine. La petite Thérèse de l'enfant Jésus est sage, divinement, pas métaphysiquement. Faites pas de la métaphysique avec la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Vous feriez de la salade qui ne marcherait pas. Mais elle est sage divinement. Ce qui emporte tout. Le principal, c'est d'être sage divinement. Mais nous avons le devoir, nous, quand on doit transmettre la vérité, on doit d'être sage selon la philosophie. Une sagesse acquise, lente. Alors, ce qui est très important, vous voyez, de saisir au point de vue philosophique, c'est de voir que la proximité de l'immanence intellectuelle ou la proximité de l'immanence affective me qualifie, moi, personnellement, qualifie mon « je suis », mais ne qualifie pas immédiatement l'être. L'être n'est pas qualifié, oui, parce que c'est plus immanent pour moi. Oui. Ce serait la manière de voir comment Blondel c'est constamment pas assez précis entre la proximité de l'immanence et la primauté du transcendant. L'immanence a une séduction énorme pour nous en raison de la proximité. Mais ce n'est pas une séduction fondamentale de l'être. Alors là, vous voyez, ce serait sans doute par là qu'on pourrait saisir la séduction du beau. Où il y a une proximité plus grande. Une connaturalité. Tout ce qui est immanent en vous, vous est connaturel. Puisque c'est vous. Ça vous est connaturel. Votre « je suis » est beaucoup plus séduisant que « ceci est ». Mais dans le « ceci est », vous respectez la transcendance de l'être. Dans le « je suis », vous magnifiez la proximité de l'être. Et vous glorifiez la proximité de l'être. Mais cette proximité de l'être ne vous dit pas que vous saisissez mieux l'être. Parce que vous le saisissez en tant que c'est votre être. Et l'être, forcément, vous le limitez. C'est votre être. Et par votre être, vous ne pourrez jamais être un Dieu. Parce que Dieu n'est pas un surhomme. Dieu est au-delà. Tandis que par l'être, même si on a de la peine à le saisir dans sa transcendance, vous pouvez rejoindre Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important de saisir la différence entre la proximité de l'immanence, où tout est. Et nous sommes tous un peu myopes hein, par rapport à l'être. Alors, c'est reposant de saisir l'être chez moi. Bon, j'invite l'être à habiter en moi, c'est reposant. Il est très doux, mon être. Il est très bon, mon être. Je suis quelqu'un, quand même. C'est vrai, je suis quelqu'un, c'est reposant d'être quelqu'un. Tandis que l'autre, qui est, n'est jamais reposant. Il me dérange tout le temps. C'est pour ça qu'on arrive à dire que l'être, c'est l'enfer. Hein. C'est le démon, c'est l'autre, c'est celui qui m'ennuie. Non, il est transcendant. Il me rappelle toujours le réel. Et bon, c'est le bienfait de vivre avec un autre, de vivre avec plusieurs. C'est ce qui me dérange tout le temps. Tandis qu'autrement, je risque de rester tout le temps dans la proximité de l'être, en croyant que c'est l'être. Alors, vous voyez comment la distinction d'Aristote entre entelekaia et energeia prend une force très grande quand j'essaie de comprendre l'être en acte dans l'esprit. L'esprit, mon esprit, magnifie l'entelekaia. L'entelekaia n'a jamais été aussi grand, aussi beau, aussi fort que dans mon intelligence et dans ma volonté. Mais cet entelekaia, ce bien saisi en moi, ce vrai saisi en moi, doit s'incliner, doit être relatif à l'energeia, qui est le vrai existant, la réalité, vrai, la bonté existante dans l'ami, qui est capable alors de mesurer mon intelligence vraie et qui est capable de mesurer mon amour, de le mesurer, c'est-à-dire d'être source de mon vrai formel et de mon amour. Et c'est là où je saisis la différence entre l'intentionnalité entelekeia de l'intelligence et l'intentionnalité entelekeia en acte de l'amour. L'intentionnalité de l'entelekeia dans l'intelligence, le vrai formel, doit être conforme à la réalité. Donc adéquate, mesurée par la réalité. C'est vrai, ce que je dis est vrai, parfaitement vrai, si c'est conforme à la réalité. Si c'est pas conforme à la réalité, ce que je dis n'a qu'une valeur d'intentionnalité. La valeur d'une parole. Elle peut être sincère, très bien. Elle peut être fausse, très bien. Quand je regarde l'intentionnalité affective, l'intentionnalité affective la plus parfaite, c'est dans un amour d'amitié. Pour que l'intentionnalité affective soit parfaite, il faut être deux. Pour que l'intentionnalité intellectuelle soit parfaite, on est seul avec la réalité. Et la réalité, elle s'impose à moi. Ton dit que l'intentionnalité affective parfaite, il faut être deux. C'est l'amour de l'amour. C'est donc l'entelekeia de l'ami qui permet à l'entelekeia de l'ami d'aller parfaitement et d'être tout entier tourné vers celui qui existe, qui est, c'est-à-dire l'ami. Et ne pas rester enfermé dans son amour, mais l'acte de l'ami, sa bonté, m'attire. La force de la bonté, c'est d'attirer, d'être source d'attraction. C'est pas mesuré, c'est source d'attraction. Et parce que c'est source d'attraction et que l'amour veut être tout entier tourné vers l'autre, cette source d'attraction me déloge moi-même. Pour être tout entier tourné vers l'autre, ce que ne fait pas la vérité. La vérité ne me fait pas que je suis tout entier tourné vers la réalité. Parce que je garde la vérité formelle en moi. Tandis que dans l'amour, l'entelekeia de celui qui aime, c'est quelque chose qui me déloge et qui me met tout entier tourné vers l'ami. L'ami, par la bonté, m'aspire, il m'attire, tandis que le vrai ontologique mesure. C'est pas la même chose. Et c'est en saisissant ces deux modalités à l'intérieur de l'intentionnalité, ces deux modalités de l'acte, dans l'intentionnalité intellectuelle et dans l'intentionnalité affective, que je vois bien la différence de l'intentionnalité intellectuelle et dans l'intentionnalité affective. Il faut toujours prendre ce qui est parfait pour comprendre l'imparfait.